Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 15 mars, on a connu Jean-Noël Guérini plus bavard. Le sénateur et son frère Alexandre sont jugés en correctionnel à Marseille avec 9 autres personnes pour un système clientéliste sur fond d'attribution de marchés publics. Et il se montre mutique. De nouveaux soupçons sur Nordal Lelandais. Le corps d'un jeune homme de 18 ans a été exhumé près de Strasbourg. Information RTL. Les pharmacies vaccinent désormais, mais au compte-gouttes, les doses se font rares. Et pendant ce temps, la région Île-de-France se demande un peu plus chaque jour si elle pourra échapper à un reconfinement. Fini le cappuccino en terrasse, l'Italie baisse le rideau. Une bonne partie du pays est reconfinée jusqu'à Pâques. Dans RTL Midi aussi, une prime pour récompenser les salariés qui ont tenu pendant le confinement. On l'appelle déjà prime Macron. Mais ce sont les chefs d'entreprise qui la verseront. Nous verrons ce qu'en pense le patron de la CPME, François Asselin. Et puis nous passerons au distributeur en Franche-Comté. Alors non pas un distributeur de billets, mais de cuisses de grenouilles. Ce sera le coup de cœur décalé de notre correspondant. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Encore un régime de giboulée.
Exactement, d'ailleurs je vois ça sur mes images, là, satellite, radar, on voit cette alternance entre éclaircies, passages nuageux et averses. Alors ça va continuer cet après-midi dans la plupart des régions, ça sera surtout vrai ou en tout cas très actif dans l'Est, un petit peu moins en allant vers l'Atlantique ou encore les côtes de la Manche, moins d'averses mais toujours des passages nuageux, et puis avec l'aide du vent, c'est vrai que ça restera quand même plus dégagé près de la Méditerranée. Alors, j'ai parlé d'averses, ça c'est sous forme de pluie ou de neige à basse altitude sur tous les reliefs de l'Est, sur les Alpes, le Jura ou encore les Vosges, le tout avec des températures fraîches dans les régions du Nord-Est. On ne dépassera pas les 7 à 10 degrés de la région Rhône-Alpes à l'Alsace. Dans les autres régions, on sera souvent entre 10 et 12, 13 degrés. C'est à peu près de saison, 15 à 17 même près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. Avez-vous été choqué par la cérémonie des Césars? Vous êtes 60% à nous dire oui, à 24% de non. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour. Choqué ou attristé d'ailleurs devant ce spectacle qui était parfois affligeant, disons-le. La comédienne Corinne Massiero entièrement nue sur la scène. L'acteur Jean-Pascal Zadi qui a eu envie de parler d'Adama Traoré. Eh bien, vous pourrez nous donner votre avis. Jean Castex n'exclut pas un confinement de l'Île-de-France. Ce sera un deuxième thème. Le vaccin AstraZeneca continue de faire parler de lui. Le Premier ministre a estimé qu'il fallait avoir confiance et à l'instant, on apprend que les pompiers des Bouches-du-Rhône suspendent la vaccination de leur personnel après des effets indésirables. Donc ça ne va pas arranger les affaires d'AstraZeneca, en tout cas de la manière dont il est perçu. Et puis, autre sujet, plus léger peut-être, êtes-vous prêt à payer le parking pour aller à la plage? Figurez-vous que la ville
plus
de Carnon...
Oui,
vous avez raison, j'aurais pas dû dire ça. La ville de Carnon souhaite faire payer le stationnement le long de ses plages cet été. Mon Dieu, à tout à l'heure.
Mais je reste. Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Tout ça pour ça, clamait Jean-Noël Guérini il y a quelques semaines. L'ancien homme fort du Parti Socialiste marseillais comparé avec son frère Alexandre et 9 autres personnes depuis ce matin en correctionnel. Et le ça, c'est ce que le parquet appelle un système clientéliste, un dévoiement généralisé de la chose publique au service d'intérêts économiques privés. Alexandre Guérini, surnommé Monsieur Frère à Marseille, a prospéré, lui, dans la gestion des déchets grâce justement à des marchés publics. Hugo Hamelin, vous êtes au Palais de Justice de Marseille, où le sénateur Jean-Noël Guérini s'est montré peu bavard à son arrivée.
Oui, Jean-Noël Guérini et son frère Alexandre sont arrivés séparément au tribunal correctionnel de Marseille ce matin. Pas de collusion affichée entre les deux frères. Assailli par une trentaine de journalistes, le sénateur en costume sombre et cravate bleue a préféré garder le silence, tout comme les deux stars du barreau qu'il défend, Maître Thémine et Maître Mattei. Devant le tribunal, quelques gilets jaunes ont tendu une banderole sur laquelle ils demandent que les élus corrompus soient inéligibles à vie. Et dans la salle d'audience, agrandie à l'occasion de ce procès hors norme, la juge va devoir disséquer les 58 tomes du dossier pour tenter de prouver que Jean-Noël Guérini a voulu avantager son frère entrepreneur lors d'un marché public. D'ailleurs, les associations Anticor et Transparency, spécialisées dans la lutte contre la corruption, sont parties civiles. L'après-midi devrait être consacré à la présentation des 12 prévenus. On entendra à cette occasion les premiers mots de Jean-Noël Guérini dans ce procès.
Hugo Hamelin, en direct du Palais de Justice de Marseille. Y a-t-il d'autres victimes de Nordal Lelandais? RTL vous le révélait ce matin. matin, le meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer pourrait aussi avoir croisé la route de Thomas Rajkolb. Le corps du jeune homme de 18 ans avait été retrouvé sur les berges d'une rivière il y a 5 ans, près de Strasbourg. Et c'est le témoignage de l'ancienne compagne de Lelandais sur RTL qui a relancé le dossier, Serge Puyot.
Oui, le 14 octobre 2019, cette ex-compagne témoigne sur RTL et à la question « Avez-vous des doutes sur l'implication de Lelandais dans une autre affaire ?» elle répond immédiatement.
Il y en a en tout cas une qui m'a interpellée, c'est celle de Thomas Rajkolb en décembre 2015, où ce jeune a été retrouvé mort. Et en fait, je vais me souvenir qu'on a eu une violente séparation d'un mois à peu près. Ça a été très violent pour lui, il est très en colère contre moi. Il y a des similitudes avec l'état de frustration et de colère qu'il avait juste avant l'assassinat d'Arthur Noyer. En tout cas, ça m'interpelle.
Maître Bernard Boulou, l'avocat de la famille de Thomas Rajkolb.
Nous sommes inspirés effectivement de ces déclarations pour dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser et que c'est pourquoi il fallait rouvrir cette enquête.
Et après l'exhumation du corps du jeune homme, l'avocat attend beaucoup des résultats de l'autopsie.
Cette autopsie va permettre de savoir si les fractures que les experts légistes vont pouvoir constater ne sont pas la résultante de coups d'un objet contondant. On verra si elle nous oriente vers un meurtre ou pas.
Il est désormais acquis que Nordal Lelandais fréquentait la boîte de nuit proche de l'endroit où a été découvert le corps de Thomas Rajkolb.
Information Serge Puyot. Des vaccins au compte-gouttes. Les commandes ont été rouvertes ce matin aux médecins libéraux, mais ils devront se contenter de 30 000 flacons qui seront livrés d'ici fin mars. Autant dire qu'ils vont devoir gérer la pénurie. Les pharmaciens peuvent vacciner depuis ce matin, mais ils sont confrontés exactement au même problème. Sébastien Rouxel, vous êtes dans une pharmacie de Montreuil en Seine-Saint-Denis pour RTL.
Effectivement, Christelle, et l'officine n'a reçu qu'un seul flacon d'AstraZeneca pour la semaine, 10 doses en tout, dont la moitié ont déjà été administrées ce matin. À Gilit, notamment, un septuagénaire qui souffre d'hypertension.
Allez, je vais chercher le flacon de vaccin et on y va.
On se met sur ce petit bras-là ?
Ça va ? Déstressé, hein ?
Je vous fais confiance.
Ah, ça va alors.
Et ça y est.
Oui, c'est rapide et puis j'ai pas senti.
Eh ben, tant mieux.
Tout va bien ?
Tout va bien. Je suis très content, oui.
Très heureux et surtout rassuré, c'est pour ça qu'il tenait à le faire en pharmacie.
C'était important, parce que je connais la personne qui va le faire pour moi, j'ai fait confiance à elle, c'est très important, oui.
À l'arrestation, on reste un petit peu en observation, comme ça, un petit quart d'heure.
La deuxième injection, ce sera le 17 mai. Enfin, s'il n'y a pas trop de problèmes d'approvisionnement, reconnaît Karen, la pharmacienne.
Donc là, on a eu notre flacon pour cette semaine, donc on savait qu'on allait en avoir qu'un. Donc ça, il n'y avait pas de souci, on avait prévu 10 patients pour un flacon. On a donc déjà commandé notre flacon pour la semaine prochaine, mais on nous indique apparemment que c'est réservé aux médecins. Donc ce qui fait que la semaine prochaine, normalement, on n'a peut-être pas de flacon.
Pas le choix, donc elle va devoir reporter plusieurs injections, car tous les rendez-vous sont déjà pris pour les deux prochaines semaines.
Alors, on vaccine à toute petite dose en Seine-Saint-Denis. On l'entend, c'est le département pourtant où le nombre de nouveaux cas atteint 86 pour 100 000 habitants. C'est même carrément un record dans l'Hexagone. Et on sait que la vaccination ne fera baisser le taux d'hospitalisation que dans plusieurs semaines. Les chiffres continuent de s'affoler en Ile-de-France à Gatlandais.
Oui, la situation ne s'est pas améliorée dans le week-end. Loin de là, la courbe des nouvelles contaminations reste à la hausse dans tous les départements en Ile-de-France. Le taux d'incidence a dépassé le seuil critique des 400 cas pour 100 000 habitants dans quatre départements franciliens, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis, où le taux d'incidence s'approche des 500 cas pour 100 000 habitants. Avec de tels chiffres de circulation du virus, la pression sur les hôpitaux va donc forcément encore s'intensifier dans les semaines à venir, et ce, alors que l'Île-de-France est déjà à saturation, 99% de taux d'occupation en réanimation et 1134 malades en réa. Pour tenir, les déprogrammations et les transferts, eux, s'accélèrent. 6 patients au total ont été évacués d'Île-de-France ce week-end. Dès aujourd'hui, 6 autres malades par jour partiront vers l'ouest à bord d'avions sanitaires. 2 opérations plus massives sont prévues pour la fin de semaine avec une centaine d'évacuations à bord de TGV médicalisés.
Merci Agathe. Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers viennent de suspendre la vaccination de leur personnel avec le sérum AstraZeneca suite à des effets indésirables sur un pompier, un homme qui a dû être hospitalisé pour arythmie cardiaque après sa première injection, mais aucun lien n'a été formellement établi. L'homme qui a développé le vaccin, le professeur Pollard, affirme ce matin sur la BBC qu'il n'y a pas de phénomène de caillot sanguin au Royaume-Uni où la plupart des doses ont été administrées. Pourtant, le gouvernement néerlandais suspend son utilisation, donc AstraZeneca comme l'Irlande, le Danemark ou encore la Norvège. Une pause et dans un instant, une bonne partie de l'Italie baisse le rideau et se reconfine.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Déconfiné, reconfiné, un an après le début de la pandémie, le monde en est toujours au même point. Le Portugal entame la levée de ses restrictions au moment où en Allemagne, les médecins qui travaillent en soins intensifs demandent un retour immédiat à un régime plus sévère face à la diffusion du variant britannique. L'Italie, qui avait retrouvé un parfum de liberté avec la réouverture des restaurants, est de nouveau aux trois quarts confinée depuis ce matin et jusqu'au lundi de Pâques inclus. Anne Lenir, comment en est-on arrivé là ?
Contrairement à la France, l'Italie avait rouvert ses bars et ses restaurants au mois de février. Mais faute de contrôles policiers sévères, ces assouplissements ont entraîné de joyeux rassemblements quotidiens. Sur les terrasses des cafés, sur les places ou encore à l'extérieur des pizzerias très fréquentées par les jeunes. Or, d'après les experts, le variant britannique, qui représente la majorité des nouveaux cas de coronavirus, est plus contagieux, plus dangereux. Par ailleurs, la campagne de vaccination a ralenti à cause du retard dans l'approvisionnement en vaccins et d'une gestion qui a viré à la cacophonie entre l'exécutif et les régions. À ce jour, 3% des Italiens ont été vaccinés. L'objectif du gouvernement est donc de passer de 170 000 doses par jour à 500 000, notamment grâce à une recentralisation de la campagne sous la responsabilité d'un haut gradé de l'armée.
Anne Lenir, correspondante RTL à Rome. Et ça peut paraître paradoxal, mais chez nous, c'est le moment où l'exécutif se penche sur la sortie de crise. Jean Castex, le Premier ministre, réunit syndicats et patronats pour tenter de sortir enfin du présent et préparer l'avenir, la levée des restrictions sanitaires, la fin de la perfusion de l'économie. Et il souhaite, le Premier ministre, que les chefs d'entreprise versent une prime au petit salaire, Anaïs Bouissou.
Oui, une prime défiscalisée sans cotisation à payer pour les chefs d'entreprise qui s'en saisiraient. Le but, c'est de remercier au moins les salariés qu'on appelle les deuxièmes lignes, qui ont continué à se rendre sur leur lieu de travail malgré la crise. Mais au-delà des deuxièmes lignes, une piste envisagée est de permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de verser une prime. Les contours précis de cette nouvelle prime dite Macron seront annoncés cet après-midi.
Une prime Macron, Anaïs, ça a comme un parfum de monde d'avant, non ?
Oui, c'est vrai que la version 1 de la prime Macron date de 2019. Suite au mouvement des Gilets jaunes, l'objectif était déjà de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. À l'époque, près de 5 millions de personnes en ont bénéficié pour un montant moyen de 400 euros. L'an dernier, en 2020, une deuxième version de la prime Macron a été annoncée. Cette prime a été versée malgré la crise à plus de 5 millions de salariés quand même. Alors pour cette année, la crise fait son effet et plusieurs représentants du patronat sont sceptiques. Ils s'interrogent sur la capacité des entreprises à distribuer de l'argent qu'elles n'ont pas forcément pu gagner.
Effectivement, qu'en pensent les patrons ? Nous sommes avec François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Bonjour.
Oui, bonjour.
Récompenser ceux qui ont travaillé pendant le premier confinement et qui nous ont permis de survivre, ce qu'on avait appelé les premiers de corvée, ça paraît juste, non ?
Bien sûr que ça paraît juste. Vous savez, récompenser ceux qui, effectivement, comme on les qualifie, sont étaient en deuxième ligne et n'avaient pas d'autre choix que d'aller au travail parce que tout simplement, il fallait alimenter, ne serait-ce qu'alimenter, oui, les Français, c'est important, transporter la marchandise. Oui, c'est important de les récompenser.
Donc vous êtes d'accord avec la prime Macron ?
Alors, c'est déjà un abus de langage puisque, comme vous le savez, la prime Macron est d'abord versée par l'employeur. Hein, mais pour autant, lorsque on verse 100, que ça coûte 100 à l'employeur et que le salarié reçoit 100, puisque c'est net de charges et net d'impôts. Oui, c'est un dispositif qui encourage, qui a été très apprécié des salariés, bien évidemment ceux qui ont pu la recevoir, et puis aussi des employeurs, parce que c'est simple, c'est direct, c'est efficace, et ça fait plaisir à tout le monde.
Donc ça veut dire que les petits patrons que vous connaissez très bien sont prêts à faire un geste envers leurs salariés aujourd'hui ?
Alors les grands patrons des petites entreprises sont toujours prêts à motiver leurs salariés. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens, parce que malheureusement certains, bien évidemment, sont fermés, donc là évidemment il n'y a pas de prime possible hein, puisqu'ils ne peuvent pas travailler, et puis d'autres sont dans des situations économiques pas très confortables. Donc vous savez, on ne peut distribuer que ce que l'on gagne. Alors pour les entreprises qui ont cette possibilité de pouvoir distribuer, de motiver leurs salariés, bien évidemment ça fonctionnera, et ça fonctionnera bien puisque la première fois, je crois que plus de 5 millions de salariés avaient pu en bénéficier.
Vous y croyez, vous ? Parce qu'on sent quand même une réticence. On a l'impression que vous dites oui, c'est une bonne chose, mais en fait, on n'a pas vraiment les moyens de le faire.
Ah mais ça c'est une autre question, c'est-à-dire que lorsque vous avez les moyens de le faire, c'est un outil qui est apprécié, puisque oui, on y croit, la preuve, plus de 5 millions de salariés en ont profité, je crois que c'était fin 2019, début 2020. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas une deuxième fois. Pour autant, si votre entreprise est dans une situation économique délicate, si vous n'avez malheureusement pas de trésorerie, eh bien là c'est difficile de distribuer ce que vous n'avez pas bien évidemment gagné ou encaissé.
Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, regrettait ce matin sur RTL qu'il s'agisse d'une simple prime et pas d'une hausse de salaire. Est-ce que ça pourrait être envisageable ?
Alors vous savez que les hausses de salaire, alors vous avez d'abord les minima sociaux, hein, le SMIC est décidé par l'État, hein, l'évolution du SMIC. Ensuite, vous avez les minima sociaux et ça, ce sont les branches professionnelles qui discutent entre elles avec leurs partenaires sociaux pour voir comment on peut faire évoluer les grilles de salaire dans chacune des professions concernées. La prime dite Macron, c'est un élément conjoncturel, ça répond à un instant T, à un besoin à un instant T. Et puis, vous avez besoin effectivement parfois d'éléments structurels et là, il faut du temps pour négocier avec les partenaires sociaux parce que ça peut être effectivement la revalorisation des salaires, mais pas que, ça peut être la formation, ça peut être l'évolution des carrières, ça peut être l'attractivité des métiers. Et vous savez, lorsque nous n'étions pas dans cette période de pandémie, beaucoup de ces secteurs aujourd'hui étaient en recherche de compétences qu'elles n'arrivaient pas à trouver. Et travailler avec les partenaires sociaux justement sur toutes ces questions-là, eh bien, gageons que lorsqu'on retournera à la normale, ces mêmes branches professionnelles reprendront ces négociations pour bien évidemment être le plus attractif possible.
Et ça, ce sera dans la vie d'après. Merci François Asselin, président de la CPME. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. À bientôt. Un grand patron licencié avec effet immédiat, c'est l'un des effets à retardement du Covid. Le patron de Danone, Emmanuel Faber, vient d'être évincé de l'une des plus grosses entreprises agroalimentaires mondiales. Danone, c'est 100 000 salariés, 23 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires. Il pensait avoir sauvé sa tête il y a quelques jours en devenant président, mais il a été rattrapé par les exigences des marchés financiers, Martial Liu.
Oui, d'ailleurs, les marchés financiers sont sans pitié, hein, comme souvent dans ce genre d'histoire. Ce matin, à la Bourse de Paris, Danone est la plus forte hausse du CAC 40, avec une progression de 4%. Malheureusement pour Emmanuel Faber, les performances du titre sur les trois années pleines en tant que PDG, elles sont beaucoup moins brillantes, puisque le titre a perdu 10,75% sur trois ans. Alors, beaucoup d'observateurs ont estimé que Danone avait moins bien traversé la crise que ses concurrents, et notamment Nestlé sur le marché de l'eau en bouteille. Danone avait aussi fait le choix d'un développement plus régional, plus respectueux de l'environnement. C'est ce qu'on appelle une entreprise à mission défendue par Emmanuel Faber. C'est dans l'air du temps, ça l'a rendu très médiatique, mais ça ne fait pas gagner d'argent tout de suite. Et dans son entourage, eh bien on dit que c'est ce qu'on lui reproche. Le vieux capitalisme a eu sa peau pour dégager des bénéfices immédiats. Alors dans les faits, c'est plus complexe parce qu'on reproche aussi à Emmanuel Faber un management très dur, très solitaire. Il s'était replié sur quelques fidèles ces derniers mois, seul contre tous les administrateurs. On lui reproche d'avoir dépensé beaucoup d'énergie ces dernières semaines à sauver sa peau. On lui reproche aussi de ne pas avoir misé sur la nourriture animale et sur le café, comme Nestlé, pour se diversifier. Alors Emmanuel Faber pourra maintenant aller se promener dans les montagnes qu'il adore, pour prendre un peu de hauteur. Il est remplacé immédiatement, hein, ce qui est assez rare, par l'ancien patron de Legrand, Gilles Schnepp.
Martial Liu, et le Covid a au moins un effet positif qui se confirme chaque mois, c'est sur la sécurité routière. Le nombre de morts a encore chuté de 20% en février par rapport au même mois de l'année dernière grâce au télétravail et au couvre-feu. Les insecticides tueurs d'abeilles sont bien réautorisés de manière temporaire. Le Conseil d'État l'a validé dans la filière de la betterave sucrière, une filière qui avait perdu près de 300 millions d'euros après l'invasion d'un puceron. Le Conseil d'État estime que cette réautorisation n'est ni contraire à la Constitution ni contraire au droit européen. Dans un instant, deux footballeurs du PSG cambriolés pendant leur match contre Nantes. Hier soir.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Les joueurs de l'OM connaissent ça par cœur. Ils se font régulièrement cambrioler lorsqu'ils sont sur le terrain. Hier, les voleurs se sont concentrés sur le PSG. Environ 500 000 euros de montres et de bijoux ont été volés chez Di Maria. Et la famille du capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a subi un cambriolage avec violence, Thomas Proutot.
Absolument. Deux hommes masqués ont surgi en début de soirée hier dans la vaste maison des parents de Marquinhos, propriété située dans les Yvelines. Le père du Brésilien et ses deux filles, les sœurs du capitaine du PSG, étaient présents et les deux adolescentes ont alors été séquestrées dans une pièce à l'étage, selon une source judiciaire. Le père, lui, est resté avec l'un des malfrats qui a fait le tour de la maison à la recherche d'objets de valeur. Selon le parquet de Versailles, il aurait reçu au moins un coup de poing au ventre au cours du cambriolage et les voleurs seraient finalement repartis avec plusieurs sacs de luxe. Un vol beaucoup plus violent que celui subi par l'Argentin Di Maria. Dans son cas, les cambrioleurs se sont introduits dans sa demeure des Hauts-de-Seine sans éveiller l'attention de ses femmes et de ses filles, qui étaient elles aussi présentes. Ils ont rapidement fracturé le coffre-fort à l'étage avant de repartir en toute discrétion.
Ces cambriolages ont perturbé l'équipe, c'est ce que dit l'entraîneur Pochettino. Le PSG a été battu 2-1 par Nantes. Pas de grande fête olympique pour les Jeux de Tokyo. Le départ du relais de la flamme dans 10 jours se tiendra sans public dans le département de Fukushima. Une retransmission en direct tout au plus. 10 ans après le début de la guerre en Syrie, Emmanuel Macron plaide pour une solution politique. Dans un tweet, il s'adresse au peuple syrien. Nous n'abandonnerons jamais ce combat pour répondre aux besoins humanitaires, défendre le droit international, lutter contre l'impunité. Le conflit a fait plus de 387 000 morts. La moitié de la population a été déplacée et Bachar el-Assad est toujours au pouvoir.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons dans le Doubs, à Champly, où la saison de la grenouille vient de commencer. Il ne s'agit pas de pêche, mais de gastronomie. Un restaurant réalise un tiers de son chiffre d'affaires annuel grâce à ses cuisses goûteuses en persillade. Et pour écouler ses stocks de batraciens, eh bien, il a mis en place un distributeur, Yannick Holland.
Oui, mars-avril, c'est sacré en Franche-Comté. C'est la saison des grenouilles. Les amateurs peuvent être pris de fringales à tout moment. Du coup, à l'auberge du Château de Vette, Béatrice Boquet a décidé d'en mettre dans un distributeur automatique devant le restaurant.
C'est tout nouveau, on vient de débuter, donc on a mis 6 à 8 casiers donc avec des grenouilles et puis on recharge 2 à 3 fois par jour.
Car les casiers se vident extrêmement vite.
La grenouille ici, c'est une institution. Ça peut vous paraître bizarre, mais la grenouille ici, c'est une institution. C'est du libre-service, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça n'est pas lié au manque, hein, c'est tout. Hein. On peut les prendre crus. On fournit donc le persil et l'ail pour les cuisiner. Et puis sinon, on les sert aussi en cassolette. Donc là, auquel cas, elles sont déjà cuisinées. Et elles sont à la crème de vin jaune.
En tout cas, avec ce distributeur automatique, le restaurant veut éviter la même mésaventure que l'an dernier. Il venait d'acheter 15 000 grenouilles vivantes lorsque le confinement avait été décidé. Il avait fallu une grande mobilisation des gourmands dans le secteur grâce aux réseaux sociaux pour qu'il n'y ait aucune perte.
Et avec ce genre d'histoire, on n'a pas fini de se faire traiter de frogs par nos voisins anglais. Un conseil de lecture pour finir, Des diables et des saints. C'est un roman signé Jean-Baptiste Andréa. C'est l'histoire d'un pianiste qui raconte sa jeunesse dans un orphelinat dans les années 70. Et il vient de recevoir le Grand Prix RTL Lire ce matin. Pascal Pro, vous prenez la parole avec les auditeurs au 32-10 dans 5 minutes.
Alors. Exactement. Alors, vous n'avez pas parlé de la cérémonie des Césars, et c'est normal, puisque c'était vendredi et ça a beaucoup été traité sur l'antenne. Simplement, il n'y avait pas d'émission depuis vendredi. Donc, on attend les auditeurs. Et c'est pourquoi je vous propose ce thème aujourd'hui, qui sera sûrement un de nos thèmes principaux. La comédienne Corinne Massiero, entièrement nue. L'acteur Jean-Pascal Zadi, qui a parlé d'Adama Traoré, de Michel Zecler, ça a été parfois une tribune politique, c'était parfois vulgaire, disons-le, c'était étonnant en tout cas. Et puis ce monde culturel, il fait parler, ce qu'il est le plus à plaindre selon vous. Ces artistes étaient-ils dans leur rôle, etc., etc., vendredi soir. Donc ça sera un des sujets du jour.
Exactement,
on refait les Césars. Jean Castex n'exclut pas un confinement de l'Île-de-France, c'est un autre sujet. Le vaccin AstraZeneca qui a mauvaise presse et ça ne va pas s'arranger avec les pompiers des Bouches du Rhône. Et puis, on pourra parler, si vous voulez, du Paris Saint-Germain et du home jacking dont sont victimes les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais si vous me permettez, la brillante victoire du FC Nantes hier soir n'est pas un hold-up. C'est ce que je voulais vous dire au Parc des Princes.
Ça, c'est fait. Et c'est pas partisan du tout, bien sûr.
Bien sûr.
La météo, Louis Baudin, la neige passe encore une petite couche dans l'Est.
Mais exactement, une neige qui tombe en ce moment là sur le Jura, sur les Alpes, il y en a un petit peu moins sur les Vosges, mais le risque existera encore cet après-midi sur tous ces massifs, hein, des 500-600 mètres seulement, donc à basse altitude. Même chose sur le massif central, en plaine, mais ça sera encore. Nous aurons encore des averses sous forme de pluie, parfois accompagnées de grésil sur quasiment toutes les régions. Alors, ça sera un peu moins vrai quand même près de de la Manche ou encore près de l'Atlantique, avec là aussi des passages nuageux mais donc un peu moins d'averses. Puis près de la Méditerranée, avec l'aide du Mistral et de la Tramontane, le ciel restera franchement plus dégagé. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes du Nord, où on a déjà enregistré plus de 20 cm au cours des 24 dernières heures et ça va encore continuer. Les températures cet après-midi, 8 à 10 degrés, pas plus de la région Rhône-Alpes au nord-est, 11 à 13 degrés dans les autres régions, c'est à peu près de saison, et 16 à 17 degrés même près de la Méditerranée.
Et demain, tout pareil ?
Ben oui, pas mieux, hein. Je regarde mes cartes, non, ben, il y aura probablement même plus de nuages qu'aujourd'hui, donc encore des averses, toujours de la neige à basse altitude sur quasiment tous les massifs, y compris dans les Pyrénées. Il n'y a que près de la Méditerranée où le soleil résistera avec toujours du Mistral et de la Tramontane. Et puis les températures, ben, ça ne bouge pas, on sera entre 1 et 2 degrés parfois le matin du centre au nord-est, et l'après-midi, toujours 7 à 10 degrés de la région Rhône-Alpes à l'Alsace, en dessous des moyennes de saison, 10 à 13 degrés dans les autres régions et parfois un peu plus de 15 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Ave César, Moritori, te salutante. Monique est là. Bonjour Monique, je sens qu'on va bien s'amuser aujourd'hui.
Oula.
Bonjour Monique.
Bonjour Pascal.
Ça vous a plu cette cérémonie ?
C'était pitoyable, écœurant, dégueulasse.
Bon, bah écoutez, vous allez nous dire pourquoi. Christelle le rappelle des titres.
On vaccine en pharmacie depuis ce matin. Les médecins généralistes, eux, ont pu repasser commande, mais ils devront se contenter de 30 000 flacons livrés d'ici fin mars. Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers viennent de suspendre la vaccination de leur personnel avec le sérum AstraZeneca suite à des effets indésirables sur un pompier. Il a dû être hospitalisé pour arythmie cardiaque après sa première injection. Il va mieux. On a connu Jean-Noël Guérini plus bavard, le sénateur et son frère Alexandre sont jugés en correctionnel à Marseille avec 9 autres personnes pour un système clientéliste sur fond d'attribution de marché public. Pour l'instant, Jean-Noël Guérini reste plutôt mutique. En Birmanie, 5 manifestants pro-démocratie tués aujourd'hui au lendemain de la journée de répression la plus meurtrière depuis le coup d'état militaire. L'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi doit comparaître devant la justice.
Les auditeurs ont la...